France Inter.
Bonjour à tous, c'est un monde à part dans le paysage de la santé en France, l'hôpital américain de Paris, une institution fréquentée par des stars, des grandes fortunes et des chefs d'État. Bonjour Stéphane Peyre.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur les coulisses de cet établissement privé financé par des milliardaires comme Vincent Bolloré, mais dont le fonctionnement est aujourd'hui critiqué. Un juge d'instruction enquête après le suicide d'un médecin anesthésiste.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
L'hôpital américain de Paris poursuit sa mission d'excellence en maintenant constamment la très haute qualité de ses services de santé et en proposant des soins à l'américaine. Paris, l'une des plus belles destinations touristiques du monde.
Extrait d'une publicité diffusée en 2017, vantant les mérites de l'hôpital américain de Paris, situé non pas dans la capitale, mais à Neuilly-sur-Seine, un établissement prestigieux, mais dont la réputation est aujourd'hui quelque peu écornée. On va y revenir en détail, mais d'abord, Stéphane Peyre, il faut revenir sur l'histoire assez méconnue de cet hôpital.
Oui, il a été fondé au début du XXe siècle, en 1906 précisément, par des Américains fortunés vivant à Paris. À l'époque, la capitale abrite près de 30 000 Américains. C'est une communauté importante, mais aussi influente, où l'on retrouve notamment les héritiers des grandes familles américaines, présentes dans l'industrie, les chemins de fer, les mines d'or, ou la banque. Une élite qui va alors s'organiser. Comme l'explique l'historienne des migrations à l'école des hautes études en sciences sociales, Nancy Green, elle a écrit le livre « Les Américains de Paris ».
Tous ces Américains à Paris, toute cette élite de la communauté américaine, qu'on appelait d'ailleurs colonie américaine, avaient créé pas mal d'institutions. Une église, la bibliothèque américaine, il y avait une société des dentistes américains. Et ce qui était une des foyers de cette élite, si on peut dire, c'est la Chambre de commerce américaine qui, elle était créée en 1894.
Et c'est donc dans ce contexte que va être créé l'hôpital américain.
Effectivement, à l'initiative d'un petit groupe d'hommes d'affaires, dont le fondateur de la banque Morgan, mais aussi de médecins américains, leur idée, c'est de fonder un hôpital pour leurs compatriotes à Paris, un établissement de santé où les Américains seront soignés par des Américains, dans leur langue maternelle et selon leurs standards de santé. Voilà ce que les fondateurs en disaient à l'époque.
Extrait d'un compte-rendu du conseil d'administration du futur hôpital américain, 1909.
Les États-Unis sont le seul grand pays à ne pas avoir pris de dispositions pour ceux de ses citoyens qui pourraient avoir besoin de soins médicaux ou chirurgicaux dans un hôpital public de la capitale française.
Et c'est comme ça que les fondateurs de l'hôpital américain vont lever de l'argent, beaucoup d'argent, l'équivalent de 50 millions de dollars, pour faire sortir cet hôpital de terre aux portes de Paris, sachant qu'au départ, il s'agissait d'un établissement de taille plutôt modeste, comme l'explique à nouveau l'historienne Nancy Green.
L'idée au début, c'est d'avoir des chambres pour des riches et des chambres pour les pauvres, ou c'est-à-dire qu'il y avait 20 lits à l'origine, dont 10 chambres pour les plus fortunés et une pièce pour les gens qui avaient moins d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu donc exister en France, mais finalement dans l'entre-deux-guerres, être aussi accrédité par les médecins aux États-Unis, même si ce n'était pas un hôpital aux États-Unis.
Oui, donc, à l'origine, c'est vraiment un hôpital pour les Américains sur le sol français. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Stéphane, les choses vont bouger.
Oui, parce que les médecins et les infirmières de l'hôpital américain sont en première ligne pour aider les militaires français. Plus de 600 lits sont créés pour soigner les poilus et opérer les gueules cassées, ces soldats défigurés sur le front.
Dès 1915, il y a à l'hôpital américain des gens qui sont venus pour faire l'ambulance, pour aller sur près des champs de bataille et aider pour les blessés et aider à les évacuer avant même que les États-Unis entrent en guerre. Donc c'est quelque chose qui est fort et qui est incarné dans une institution comme cet hôpital.
Et durant le conflit, Benoît, l'hôpital va soigner plus de 100 000 soldats alliés.
Et du coup, après la guerre de 14-18, le statut de cet hôpital va changer.
Tout à fait, parce qu'il incarne l'amitié franco-américaine et obtient de puissants soutiens politique des deux côtés de l'Atlantique. La France ne finance pas l'hôpital, mais lui reconnaît le même statut d'utilité publique que les autres cliniques privées françaises. Et puis aux États-Unis, le Congrès lui accorde, c'est inédit, le statut fédéral. Autrement dit, l'hôpital américain devient, et reste encore aujourd'hui, la seule structure de santé américaine hors de son territoire.
Et cette double reconnaissance franco-américaine, elle a une conséquence.
Oui, elle permet à l'établissement, surnommé l'Américain, de recevoir légalement des dons et des legs aux États-Unis comme en France. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 40 ans après sa naissance, eh bien l'Américain est devenu une institution respectée.
Et à partir de ce moment-là, Stéphane, l'hôpital américain devient l'établissement préféré des grandes fortunes et du show business.
Oui, écoutez par exemple cette archive de la radio publique datée du 16 mars 1962.
Inter-actualité.
À l'instant, nous apprenons qu'Édith Piaf est à nouveau malade.
Elle a pris froid, elle a attrapé une bronchopneumonie. La maladie se compliquant d'un édème du poumon, la chanteuse a dû être hospitalisée à l'hôpital américain où pendant 2 jours, elle a été placée sous une tente à oxygène.
Édith Piaf, mais aussi Picasso, Yasser Arafat, Jean Gabin, la chanteuse Barbara, l'héritière de L'Oréal Liliane Bettencourt ou le président gabonais Omar Bongo. L'Américain attire les stars de la musique, du cinéma, du sport, mais aussi les personnalités politiques, en recrutant notamment des médecins français réputés qui disposaient déjà d'une clientèle huppée. Et plus de 20 ans après Édith Piaf, voilà ce qu'on peut entendre dans le journal de France Inter. C'était le 12 janvier 1985.
Johnny Hallyday a quitté en début d'après-midi l'hôpital américain de Neuilly, où il avait été admis, vous le savez, mardi dernier, après un malaise pendant son spectacle rock 100% sur la scène du Zénith. Johnny avait aujourd'hui la mine pâle et semblait fatigué. Il a regagné rapidement son domicile. Il doit reprendre son grand spectacle au Zénith le 19 janvier. Keep on rock'n'roll.
Et pour se soigner comme Johnny Hallyday, faire un bilan de santé complet dans le check-up center ou accoucher à l'abri des regards, la promesse de l'Américain repose sur 3 piliers. L'excellence des soins, le luxe de l'accueil et une totale discrétion.
Ce qui attire, on l'imagine, cette clientèle de VIP et cet hôpital des stars, comment il fonctionne exactement?
Eh bien, depuis sa création, il est considéré comme un organisme privé à but non lucratif. Tous ses bénéfices sont donc réinvestis dans la structure. Il n'a pas d'actionnaires. Il ne reçoit aucune subvention. Et ses médecins, près de 330 aujourd'hui, sont libéraux. Ils sont directement payés par les patients. Leurs honoraires ont la réputation d'être parmi les plus chers de Paris.
Et ces médecins, ils sont triés sur le volet.
Avec une accréditation qu'ils doivent renouveler tous les 2 ans auprès de la direction, et au moindre incident, ils doivent se justifier devant une sorte de conseil de discipline baptisé Patient Care Committee, avec derrière d'éventuelles sanctions. J'ajoute que l'hôpital dispose d'un encadrement qu'on ne voit nulle part ailleurs. 12 chefs de pôle pour 145 lits, une infirmière pour 6 patients, c'est 2 fois plus que dans l'assistance publique, avec un plateau technique à la pointe et des temps d'attente très courts, rien à voir là encore avec le public.
Donc la crème des médecins pour s'occuper d'une clientèle haut de gamme et les patients, ils viennent du monde entier.
Oui, à l'Américain, 1 patient sur 3 est étranger, il rapporte près de 40% des revenus. En plus de l'attention aux patients américains, l'hôpital dispose aussi d'une cellule Russie avec 2 infirmières russes, une cellule Japon ou une structure spécialement dédiée aux pays du Golfe ou à l'Afrique. Et pour protéger la discrétion des patients les plus importants, l'hôpital utilise une procédure d'admission anonyme et sous pseudonyme, avec en plus évidemment un service 5 étoiles, comme l'a constaté la journaliste Isabelle de Foucault du magazine Challenge.
C'est des codes des grands hôtels, comme le Royal Monceau, le Meurice, par exemple des livraisons de fleurs, voituriers, bagagistes, bon, tout un tas de prestations, santé, beauté, soins de beauté qui sont mis en place. Vous avez le chef étoilé Yannick Aleno en partenariat pour concocter des plateaux repas, des petites attentions dans la partie maternité, il y a cette timbale en argent qui est remise en souvenir. On soigne aussi l'après-vente, si je puis dire, en prenant des nouvelles de la famille régulièrement. Tout ça n'est pas un mythe, c'est mis en place exprès pour fidéliser cette patientèle et surtout garder une bonne image, une bonne réputation sur le long terme auprès de ses familles.
Et pour conserver cette bonne réputation, l'hôpital américain dispose d'une double accréditation. Côté français, c'est celle de la Haute Autorité de Santé, qui doit renouveler sa certification prochainement. Et côté américain, c'est celle de la Joint Commission, la commission des hôpitaux basée à Washington, une accréditation qui, là encore, doit être renouvelée cette année.
Thank you.
France Inter, secret d'info.
Alors, on a vu que l'hôpital américain attirait une patientèle célèbre et fortunée et qu'elle bénéficiait d'une image d'excellence en matière de soins. Mais cette image, Stéphane Père, elle est aujourd'hui quelque peu altérée, notamment depuis la mort brutale d'un médecin anesthésiste.
Oui, le 16 février 2020, le corps d'Emmanuel Marais est découvert en forêt de Montmorency, dans le Val-d'Oise, inanimé à l'arrière de sa voiture. Le médecin, l'autopsie le confirmera, s'est lui-même pratiqué une perfusion mortelle avec des produits prélevés dans la pharmacie de l'hôpital. Il avait 48 ans et exerçait depuis 10 ans à l'américain.
Et cette mort, c'est évidemment un choc pour ses proches et pour tous ses collègues.
Oui, tous saluent ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Un médecin expérimenté, plein de sang-froid, attentionné, disponible et rigoureux. Son suicide provoque une émotion considérable, oui, dans l'hôpital et au-delà, dans la communauté des anesthésistes français. 400 personnes sont présentes à son enterrement, mais pas la direction de l'hôpital, ni son chef de service.
Et pourquoi ?
Eh bien, c'est la décision de la veuve d'Emmanuel Marais, parce que selon elle, dans les mois et les semaines qui ont précédé le drame, son mari lui a fait part de sa souffrance au travail. Voilà ce qu'elle nous disait en décembre 2020, 10 mois après la mort de son mari. Nous avons fait lire ses propos.
Dans l'une de nos dernières conversations, il me disait « Je n'en peux plus de toute cette pression, je veux quitter cet hôpital, j'en ai ras-le-bol. Je fais mes gardes et on en parle calmement de tout ça en vacances. » Le lendemain, il ne nous a jamais rejoints. Nous sommes tous hébétés, c'était quelqu'un de solide, habitué au stress des interventions, absolument pas déprimé, et ses enfants représentaient tout pour lui. Ce geste, ce n'est pas lui. Ça ne lui correspond pas.
Et pour sa veuve, ce geste serait donc directement lié à son travail.
Je ne lui connaissais qu'un problème, un problème professionnel. C'est quelqu'un de très pudique, mais à moi, il me racontait tout. Depuis des mois, il m'exprimait toutes ses difficultés professionnelles. Il ne trouvait pas de soutien. Je veux savoir. Je ne veux pas que ça se reproduise. Comment un système peut broyer un homme aussi solide ?
Oui, donc elle met directement en cause l'hôpital américain où travaillait son mari. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Des collègues de son mari viennent alors la voir et dénoncent auprès d'elle une forme de harcèlement de la part du supérieur d'Emmanuel Marais, son chef de pôle. Mais pas seulement, ils parlent aussi d'un climat de tension permanent au sein de son service. Et ils évoquent notamment une alerte envoyée par un médecin, mais pas n'importe lequel, le directeur des affaires médicales de l'hôpital. Alerte adressée à la direction de l'américain le 24 décembre 2019, un mois et demi avant le suicide d'Emmanuel Marais. Voici un extrait de cet email.
Je souhaite vous alerter sur une dérive potentielle à venir en anesthésie. Nous devons être vigilants. Commence à organiser un modèle clanique. Cette situation ne pourra pas durer longtemps, car elle est délétère pour l'institution. Je suis loyal, transparent, légaliste, éthique, déontologique et corporate. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Je souhaitais vous en informer pour prendre date. Vous devez être au courant.
Et 6 jours plus tard, le directeur général de l'Américain, interpellé, répond à ce représentant des médecins.
Le docteur a le soutien de la direction. Vous parlez de dérives inacceptables, de modèles claniques, de limites à ne pas franchir. Vous en dites trop ou pas assez ? Je soutiens pour des raisons claires. Si vous avez des doutes ou des informations, merci de les partager.
Autrement dit, sans plus d'informations, le directeur général de l'Américain estime que le dossier est clos. Mais le médecin, lanceur d'alerte, lui, insiste dans un nouvel email.
Moi, j'ai des gros doutes sur ce leadership agressif qui n'embarque pas le groupe, qui sert des intérêts de plus en plus personnels. Mon devoir est de vous alerter bien en amont. Faites votre enquête et ne négligez pas le capital humain. Interrogez tous les anesthésistes, même les plus discrets. Je serai très vigilant. Car il y aura de nouveaux rebondissements.
Et selon nos informations, Benoît, ce représentant des médecins, a échangé à plusieurs reprises avec Emmanuel Marais avant sa mort. Et l'anesthésiste lui a dit ne plus se sentir écouté ni en sécurité.
Et l'hôpital américain, comment il réagit après la mort de cet anesthésiste ?
Eh bien, il lance sa propre enquête. 56 personnes ont été entendues par une commission interne qui conclut, je cite, « à l'absence de lien entre la mort du docteur Marais et l'hôpital ».
Ce qui n'est visiblement pas le sentiment de son épouse. Et c'est pour ça qu'elle demande à rencontrer la direction de l'Américain.
Oui, en mai 2020, la veuve du médecin est reçue par 2 membres du comité de direction. Et pour elle, c'est un moment de bascule, raconte son avocat Benjamin Bobot.
Ses dirigeants lui ont menti. Ils lui ont dit qu'il n'avait jamais été informé d'un quelconque dysfonctionnement dans le service anesthésie où travaillait son mari, ce qui est factuellement faux. Ce sont véritablement ces mensonges qui ont été proférés droit dans les yeux à ma cliente qui l'ont décidé à déposer plainte.
Ah oui, donc elle décide de saisir la justice.
Oui, elle dépose plainte au parquet de Nanterre pour harcèlement moral et professionnel. Selon nos informations, près d'une vingtaine de témoins ont été entendus, une majorité de collègues médecins, proches ou non d'Emmanuel Marais, mais aussi des responsables de l'hôpital, et notamment le supérieur direct de l'anesthésiste qui s'est suicidé. Nous avons fait lire un extrait de son audition.
Comment avez-vous vécu le décès du docteur Marais ?
Humainement, c'était quelque chose d'extrêmement violent pour tout le monde. À titre personnel, j'étais chef de pôle, donc j'essayais de comprendre, de voir si j'avais raté un truc. Je me suis beaucoup interrogé. Mais aujourd'hui, je ne me sens responsable de rien dans le décès d'Emmanuel Marais. C'était quelqu'un de brillant, mais qui vivait mal le fait qu'il puisse se tromper, qu'il puisse y avoir un aléa thérapeutique.
Donc lui ne se sent pas responsable, mais son rôle est tout de même questionné par plusieurs témoins.
Oui, 13 des 16 personnes auditionnées par la police ont directement mis en cause le comportement de ce chef de pôle vis-à-vis d'Emmanuel Marais. Ces témoins décrivent notamment une volonté de le mettre en difficulté, voire de l'humilier en l'ignorant ou en critiquant par exemple sa façon de s'habiller ou même son physique.
Et avant d'aller plus loin, Stéphane, il faut rappeler, c'est important pour éclairer cette affaire très délicate, rappeler que le métier d'anesthésiste réanimateur est particulièrement stressant.
Oui, les risques de burn-out et de passage à l'acte des médecins sont 2,5 fois plus importants que dans le reste de la population, en particulier les anesthésistes qui ont accès aux pharmacies et savent parfaitement se servir des produits. Comme ses collègues, Emmanuel Marais était formé à la gestion du stress, mais selon son entourage, il était perfectionniste. Il prenait sur lui et ne se plaignait jamais, ce qui peut être un facteur de risque, selon Ségolène Arzalier-Darret. Elle est médecin et autrice du livre « Le burn-out en anesthésie-réanimation ».
En anesthésie-réanimation, on a cette particularité d'être vraiment formé à la gestion de risque. C'est vraiment une spécialité qui demande beaucoup de rigueur, de précision, d'anticipation, d'évaluation. Et lorsque l'on n'a pas les moyens de bien faire son travail, on peut avoir un sentiment aussi d'insécurité, peut-être aussi par manque de moyens humains ou matériels, ou du fait de la fatigue accumulée aussi. On n'est pas formé à demander de l'aide du fait de la formation médicale qui prône l'excellence individuelle. Et en fait, on a toujours été habitué à ne pas s'écouter. Et donc, toute demande d'aide pourrait être prise aussi pour de la faiblesse de ne pas y arriver.
Et cette impression de se trouver comme dans un tunnel, c'est peut-être ce qui s'est passé avec ce médecin anesthésiste de l'hôpital américain.
Effectivement, l'enquête montre notamment que le mois de son suicide, il a enchaîné 5 gardes en 14 jours, travaillant près de 180 heures. Il avait un planning de garde tout à fait raisonnable, dans la moyenne des autres médecins, affirme de son côté le directeur général de l'américain aux enquêteurs. Mais face aux policiers, un collègue d'Emmanuel Marais exprime lui un tout autre avis. Nous avons fait lire ses propos.
On se retrouvait avec une surcharge de travail, ce qui est dangereux pour les patients et pour nous, et on s'en est plaint régulièrement. Mais quand on s'en plaignait au staff, ils hurlaient. C'était une fin de non-recevoir.
Et c'est dans ce contexte très particulier que, 2 jours avant la mort de l'anesthésiste, il va se produire un incident qui va laisser des traces.
Oui, Emmanuel Marais doit gérer des complications après l'accouchement par césarienne d'une femme de 33 ans, mais pas n'importe quelle patiente, la femme d'un milliardaire du Texas, un ultra-VIP, comme on les appelle dans l'hôpital. L'épouse en question montre les signes d'une occlusion intestinale, une perforation d'intestin. La réponse médicale tarde un peu, le milliardaire américain panique, il met la pression sur l'administration. Il menace même de faire rapatrier sa femme en jet privé à New York.
Et ce jour-là, Emmanuel Marais est de garde.
Oui, et il pratique une anesthésie et coordonne parfaitement l'intervention des chirurgiens. Il agit selon les règles. Mais selon l'un de ses collègues, qui l'a dit aux enquêteurs, la pression était pour lui extrême.
Emmanuel s'est retrouvé en première ligne avec le mari de la patiente. C'est à lui que le milliardaire américain faisait des reproches. Et il n'a eu aucun soutien de la direction médicale. Nous lui répétions qu'il n'avait commis aucune faute. Je sais qu'il a reçu des messages de plusieurs responsables de l'hôpital. Je ne sais pas qui, mais il nous a dit qu'il était sous pression. Quelque chose l'a fait basculer.
Oui, donc là, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose de choquant pour lui. Et ce milliardaire texan, est-ce qu'il a porté plainte ?
Non, pas du tout. Mais selon le médecin qu'on vient d'entendre, l'anesthésiste n'aurait pas supporté la remise en cause de ses compétences. Écoutez ce que dit là-dessus la spécialiste de l'anesthésie, Ségolène Arzalier-Darret.
Ce que l'on connaît chez les médecins, c'est notamment le syndrome de seconde victime. C'est le fait, après un événement indésirable, par exemple, chez un patient, d'être impacté psychologiquement et donc d'avoir un sentiment de culpabilité, parfois jusqu'à un syndrome de stress post-traumatique. Le fait qu'il y ait des poursuites médico-légales derrière, ça majore ce risque. Le fait de ne pas avoir de soutien de la hiérarchie ou le soutien de l'établissement, ça majore ce risque de seconde victime. Et le fait d'être dans un établissement qui a une gestion punitive de l'erreur, qui a eu ou pas une erreur d'ailleurs, en attribuant l'erreur à une seule personne et non pas à un système, eh bien dans ces cas-là, effectivement, on est à risque de décompenser, même si on n'est pas responsable.
Maintenant, au-delà du cas tragique de cet anesthésiste, ce que montre également l'enquête sur sa mort, Stéphane Père, c'est une critique par certains médecins du fonctionnement même de l'établissement.
Oui, et pour le comprendre, il faut revenir en 2017. Une nouvelle direction est nommée pour redresser l'hôpital dont les revenus n'ont cessé de dégringoler. L'hôpital est endetté à hauteur de près de 50 millions d'euros encore aujourd'hui. Mais surtout, le board des gouverneurs, le conseil d'administration de l'Américain, est très mécontent.
Pourquoi ?
Car l'hôpital a été à deux doigts de se voir retirer la précieuse accréditation que lui décerne la Commission américaine des hôpitaux. Et la nouvelle direction décide donc de soumettre notamment les médecins à des indicateurs de rendement à l'américaine, sous peine d'être vite remplacés. À ce sujet, écoutez comment ce chirurgien résume les choses face aux policiers.
En fait, avec la loi Touraine qui a diminué les remboursements par les mutuelles, l'hôpital il a perdu une partie de sa clientèle française. Son accréditation américaine a même failli lui être retirée. Quand les gouverneurs ont changé la direction, il s'est installé un climat de terreur, on était surveillés, contrôlés. On était en permanence sous la pression, sous les attaques.
Alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ces voix critiques qui s'expriment face aux policiers, elles représentent une quinzaine de médecins sur plus de 300 qui exercent aujourd'hui au sein de l'hôpital.
Et il faut souligner d'ailleurs que certains de ces médecins sont en contentieux avec l'Américain. Ils poursuivent l'hôpital au civil, au pénal ou devant les prud'hommes pour rupture abusive de contrat ou harcèlement moral. Mais dans cette enquête, un personnage clé de l'hôpital, un Américain qui n'est pas médecin, a lui aussi témoigné au sujet du comportement de la direction. Il s'agit, écoutez bien, de l'ancien président du Conseil des gouverneurs, la plus haute autorité donc de l'hôpital. Il était en poste au moment du suicide d'Emmanuel Marais. Et voilà ce qu'il répond le 22 mars 2021, quand la police judiciaire le questionne.
Il ressort de nombreuses auditions que le système de management mis en place par le directeur général était agressif. Avez-vous ce sentiment ?
Je suis d'accord avec cette analyse. Il n'accepte pas que les gens puissent avoir des opinions différentes des siennes. Et vis-à-vis des médecins, je trouve qu'il voulait imposer ses idées. On m'avait rapporté des problèmes au niveau du groupement des anesthésistes. J'avais donc informé la direction de l'état de la situation afin qu'il la prenne en compte et mette en place des solutions. Mais il m'a répondu qu'il était au courant et qu'il ne comptait pas intervenir.
Et tous ces témoignages, certains très critiques, on les a entendus, qu'est-ce qu'ils donnent finalement ?
Après 9 mois d'enquête, la plainte de la veuve d'Emmanuel Marais est finalement classée sans suite par le parquet de Nanterre. Aux yeux du procureur, les policiers de la BRDP, un service spécialisé de la police judiciaire parisienne, n'ont recueilli aucun élément permettant de caractériser suffisamment un harcèlement moral contre ce médecin.
Et ce que vous nous révélez, Stéphane, c'est que cette enquête sur la mort d'Emmanuel Marais, elle est aujourd'hui relancée.
Oui, parce qu'après le classement sans suite de sa plainte, sa veuve a décidé de porter plainte cette fois avec constitution de partie civile pour harcèlement moral et homicide involontaire. Un juge d'instruction enquête actuellement sur ce dossier à Nanterre. De nombreux témoins et acteurs de cette affaire ont été entendus ces derniers mois.
Donc on verra ce que donnera cette enquête. Et ce que vous avez aussi découvert, Stéphane, c'est l'existence d'un rapport qui pose question sur le fonctionnement de cet hôpital et un rapport qui date d'avant la mort de l'anesthésiste.
Oui, un rapport de 2018 sur les risques psychosociaux à l'hôpital américain, effectué à la demande des représentants du personnel, mais contre l'avis de la direction. Une étude de 75 pages, effectuée par le cabinet Technologia, auquel la moitié du personnel a répondu. Écoutez un extrait des conclusions de ce rapport.
Le sentiment de fatigue psychique et de stress est palpable pour l'ensemble des services. Le management semble être vécu par les salariés de certains services comme descendant, autoritaire, voire parfois menaçant. Au regard des constats de fatigue et d'usure exprimés par les salariés, il est impératif d'approfondir la politique de prévention des risques professionnels.
Et sachez, Benoît, que l'hôpital américain a été jusqu'à saisir la Cour de cassation pour que ce rapport ne voie pas le jour, ce qui est rarissime dans ce type de dossier. Nous avons contacté l'établissement concernant ces risques psychosociaux et voilà ce qu'ils nous ont répondu.
l'hôpital américain a mis en place des dispositifs destinés à favoriser le bien-être de ses équipes pour alerter sur d'éventuelles situations sensibles. Une permanence psychologique avec un numéro de téléphone garantissant l'anonymat, un observatoire des risques psychosociaux et des référents harcèlement pour recueillir les signalements.
Concernant la mort d'Emmanuel Marais, l'hôpital souligne que son suicide ne s'est pas déroulé sur son lieu de travail et que l'établissement a aussitôt déclenché une commission d'enquête présidée par une personnalité extérieure à l'hôpital, un professeur de l'assistance publique. Et 5 mois après avoir remis son rapport, qui écartait, souvenez-vous, la responsabilité de l'hôpital dans le suicide de ce médecin, eh bien ce même professeur a été nommé directeur médical de l'Américain, et cela pendant 3 ans. Nous l'avons contacté, il ne voit aucun conflit d'intérêt dans cette nomination.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur toutes ces grandes fortunes qui financent l'hôpital américain et dont fait partie un certain Vincent Bolloré. You're so cute, my fate is on the plate. I'll be the one who ends up getting hurt. I can't help it, fate is on the plate. Les sonorités électro-hypnotiques d'Okelou, alias la française Marie-Lou Méniel, Bladebird, extrait de son premier album Shock Enough.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombin.
Et retour à notre enquête sur l'hôpital américain de Paris, l'établissement privé préféré des stars et des grandes fortunes. Des grandes fortunes qu'on retrouve justement au cœur du fonctionnement de cet hôpital, Stéphane Père.
Oui, et d'abord à travers le board des gouverneurs. C'est une sorte de conseil d'administration d'une quarantaine de personnalités internationales, des diplomates, des industriels, des banquiers. Côté français, on trouve l'héritier du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère, ou encore le président du conseil d'administration de L'Oréal. Ils ne sont pas payés, mais décident de la stratégie et embauchent par exemple le directeur général de l'hôpital américain.
Et ce bureau des gouverneurs, qui le dirige ?
Depuis juin 2022, c'est Stéphane Roussel. Il est à la tête des fondations Vivendi et Canal+, deux piliers de la galaxie Bolloré. Vincent Bolloré, qui fait partie du cercle des très grands donateurs de l'hôpital, qui, on le rappelle, est financé à 100% par des dons.
Et qui sont ces donateurs ?
Alors, l'hôpital ne communique pas sur le sujet, mais on sait que ce sont les grandes fortunes françaises qui aujourd'hui donnent le plus à l'américain. D'ailleurs, comme aux États-Unis, leurs noms figurent sur des plaques en bronze à l'intérieur de l'établissement. Vincent Bolloré a ainsi financé le service ambulatoire et un bâtiment de l'hôpital, ce qui n'a rien d'étonnant, selon la journaliste au Monde Ariane Chemin, qui a enquêté sur les grandes fortunes françaises.
Il y a une longue tradition familiale chez les Bolloré qui veut qu'on s'occupe d'œuvres hospitalières. Ça a commencé très tôt avec le grand-père de Vincent Bolloré, René, qui a financé dans le Morbihan une clinique tenue par des sœurs augustines, les sœurs de Malestroit. Donc il y a une tradition familiale des œuvres hospitalières. Par exemple, Vincent Bolloré fait partie des gros donateurs de la maison Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement à Paris, qui accueille des malades en fin de vie, qui est spécialisé dans les soins palliatifs. L'hôpital américain, c'est encore peut-être autre chose.
Mais Stéphane, il n'y a pas que Vincent Bolloré parmi les donateurs de cet hôpital.
Oui, on peut citer également Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui a acheté un scanner de dernière génération pour la détection fine des tumeurs. La famille Gerlin, une autre grande famille donatrice, qui a financé le centre de radiothérapie de Saint-Cloud, racheté par l'hôpital. Et lors d'un récent gala à la fondation Louis Vuitton, Arnaud Lagardère a annoncé avoir collecté 100 millions d'euros de dons et de legs pour l'Américain. Des dons qui, on le rappelle, sont défiscalisés.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces grands donateurs, ils bénéficient également des soins haut de gamme de l'hôpital.
Effectivement, la plupart de ces grands donateurs et leurs familles sont soignés à l'Américain, et cela se fait dans la plus grande discrétion, comme le souligne la journaliste au magazine Challenge, Isabelle de Foucault.
C'est un enjeu important parce que quand vous avez des paparazzi qui traînent autour de l'établissement et qui peuvent prendre une photo d'un grand patron sortant de l'entrée de l'hôpital ou du check-up center, ce fameux centre qui fait des bilans de santé réguliers, ça peut alimenter des rumeurs. Et sur une société cotée, par exemple, les rumeurs de marché, après, elles s'enflamment, le cours de bourse peut chuter. C'est pas anodin. Quand on est très riche ou quelqu'un de pouvoir politique, économique, on se fait pas soigner de la même manière que monsieur ou madame tout le monde. C'est un réseau très puissant. On ne peut pas se permettre des fuites d'informations sur cette patientèle-là.
Et ce réseau très puissant, est-ce qu'il bénéficie de passe-droit ?
Alors, selon l'hôpital américain, la réponse est non. Tous nos patients, qu'ils soient donateurs ou pas, bénéficient des mêmes facilités médicales, explique la direction. Mais plusieurs sources nous affirment le contraire. Ces grands donateurs bénéficieraient d'une disponibilité immédiate des meilleurs médecins.
Avec un épisode qui a fait réagir le personnel soignant pendant la crise du Covid.
Oui, ça s'est passé en janvier 2021, alors que les soignants de l'hôpital sont en première ligne et attendent leur première injection contre le Covid-19. Ils apprennent que la direction de l'établissement a fait vacciner discrètement et avant tout le monde une vingtaine de ses gouverneurs et certains de ses grands donateurs. Une information révélée alors par France Info et que n'a pas démenti l'hôpital. Écoutez à l'époque la réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Je peux vous dire qu'en sortant de votre radio, je contacterai la direction de cet hôpital pour avoir des informations, savoir d'abord si les faits sont confirmés ou non. S'ils étaient confirmés, je les déplore. La priorisation, elle est très claire dans notre pays. Nous protégeons les plus fragiles par ordre de priorité, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire national et quelle que soit sa condition sociale. Je n'accepterai pas qu'il y ait des passe-droits. S'il y en avait, ce serait regrettable et je le dirai aux intéressés.
Bon, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, nous avons sollicité Olivier Véran pour savoir s'il avait donné ce coup de fil à l'hôpital américain. Il dit n'avoir gardé aucun souvenir de cet épisode en pleine crise sanitaire.
Maintenant, au-delà de cet épisode autour des vaccins, ce qu'on comprend, c'est que pour ces donateurs, cet hôpital joue un rôle important dans leur relation même avec le pouvoir.
Oui, et sur ce point, écoutez à nouveau la journaliste Ariane Chemin.
D'une certaine manière, je dirais qu'un hôpital, c'est un peu comme un média. C'est une façon aussi d'avoir de l'influence. Quand on est puissant, on ne veut pas mourir, on veut l'éternité, on ne comprend pas pourquoi elle se refuse à vous. Et donc, connaître un directeur d'hôpital, ça peut être effectivement une manière, grâce à l'argent, d'être mieux soigné que d'autres. Et ça peut être effectivement un instrument d'influence. Je sais que des ecclésiastiques au passé, au Vatican, se sont fait soigner à l'hôpital américain. Pouvoir accueillir dans un hôpital des présidents de la République, des ministres, des ecclésiastiques de haut rang, comme c'est le cas pour Vincent Bolloré qui en connaît beaucoup, ça vous donne en fait un pouvoir discrétionnaire énorme.
Et comme l'hôpital américain est au cœur du pouvoir, on l'a bien compris, le sujet peut vite devenir radioactif pour les journalistes.
Oui, et c'est ce qui s'est passé au Parisien, propriété du PDG de LVMH, Bernard Arnault, et grand donateur de l'américain, on le rappelle. Nous sommes en mars 2023, et le journal prépare justement une enquête sur l'américain qui évoque un autre grand donateur de l'hôpital. Écoutez Christelle Brigodeau, elle est grande reporter et présidente de la Société des journalistes du Parisien.
Un journaliste a témoigné du fait qu'il avait fait l'objet de pression, en l'occurrence une demande faite par la direction du journal d'arrêter cette enquête au motif qu'elle pouvait gêner le groupe Bolloré. On avait demandé à ce journaliste de ne pas poursuivre tout en disant que l'intérêt de l'enquête en plus était limité parce que les lecteurs ne s'intéressaient pas forcément à ce sujet.
Contacté, le directeur de la rédaction du Parisien explique que le contenu éditorial n'est pas sous influence. Ce qu'il faut quand même préciser, Benoît, c'est qu'au moment où cette enquête sur l'américain est stoppée, Bernard Arnault et Vincent Bolloré sont en négociation pour le rachat de plusieurs titres de presse, le journal du dimanche pour Vincent Bolloré et Paris Match pour Bernard Arnault, deux grands donateurs de l'hôpital américain qui n'avaient donc pas intérêt à se gêner à ce moment-là.
Merci Stéphane Paire pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec les réponses de l'hôpital américain de Paris à toutes nos questions. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.